Utsita.
Utsita.
Attitude.
Attitude.
Utsitanitude.
Une émission préposée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Réalisée par William Baudry.
Une Occitanitude tout en troubadour aujourd'hui, on peut le dire comme ça, avec Gérard Zucchetto. On dit Zucchetto ou Zucchetto ?
Nous disons Zucchetto.
Zucchetto. Alors ce soir, cette Occitanitude va nous entraîner dans l'Italie, puisque Gérard Zucchetto est un Italien.
Et oh, Furlano, un Italien del Friulque.
Frioul, donc.
Le Frioul, qui est la région alentour de Venezia, et qui est de Venezia à Trieste. Et toute ma famille, au Bendaki, et Spraco, qui me disent Frioulan, parce qu'ils connaissent la langue Furlan.
Et donc, sur les langues, on va en reparler tout à l'heure, mais pour l'instant, donc, Gérard Zucchetto, c'est l'homme du Frioul, c'est l'homme de Venise, c'est l'homme de l'Italie, mais c'est un homme qui est venu, par le biais de ses parents, très rapidement en France, sous la pression du fascisme.
Oh, esaco, d'une famille communiste, et sous une ascute à Carcassonne, yo. Et mes parents, dirais, et mes grands-parents ont causé de l'oubounendré, parce qu'à Carcassonne, c'est un peu pour eux la début de la rencontre de la culture occitane, avec Renat Nelli, qui fut professeur à lycée meu, et aussi la début de la connaissance de Martí, Mas de Brech, de la nouvelle cançon occitane. Et c'est tel que je suis passé tranquillement du français à l'occita, sans oublier le Frioulan.
Alors, parlez-nous un peu de cette jonglerie, ça va bien, les troubadours, ben, je ne sais pas, peut-être pas, mais cette jonglerie avec les langues, puisqu'il y a le Frioulan.
Oui, mais alors, quand on étudie les langues romanes et la littérature, on étudie finalement toutes les langues, l'espagnol, l'italien, et puis si on lit Pasolini, forcément, on est obligé de se confronter au Frioulan, avec un grand plaisir. Et l'Occitan, Gardi dit que l'Occitan, c'est la langue de la poésie. C'est vrai que c'est peut-être pour ça que je me suis intéressé au troubadour. Perdé que los troubadours, l'Occita, l'Ufrila, tout à coup mesclat, perieu, fuguet une cause remirable des connaissances.
Et donc, on est complètement donc, dans cette mescladisse.
Exacto. On peut dire ça, oui.
Qui nous amène donc au troubadour, mais qui nous amène aussi à la langue occitane, puisque comme vous le voyez, notre ami Gérard Zucchetto, ben, il parle la langue, il la parle bien, il faut la comprendre bien, sa langue.
Ça veut dire que je parle de façon simple et claire, comme faisaient les troubadours. Ils appelaient ça le troubar leu. Ça veut dire qu'on peut parler pour être compris par tous les mondes.
Alors, ce Carcassonne, donc, il a travaillé dans d'autres vies, dans ce que nous appelions à l'époque, mais qu'on pourrait toujours appeler d'ailleurs, on aurait bien envie de le rétablir, l'éducation populaire, hein, puisqu'il a été homme d'éducation populaire.
Oui, j'ai eu la chance, je dis c'est une chance, parce que il faut savoir que ce corps des conseillers techniques et pédagogiques dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports avait des conseillers qui étaient tous sur des postes artistiques, à côté des postes de jeunesse ou de sciences de l'éducation, il y avait aussi les postes artistiques. Et moi, j'étais de cela. J'étais conseiller en art et tradition populaire. Il faut savoir que dans ce corps des conseillers, il y avait des gens célèbres, tant dans le théâtre que dans la musique, que dans les sciences cognitives. Donc, Perriot Fouguet, une plaisir de travailler à la direction départementale des jeunesse et sports à Carcassonne. Et il y a travaillé longtemps. Et à Custadaco, il participait à des causes à niveau national, sur des programmes ou des recherches, sur les musiques et les danses traditionnelles, par exemple, qui étaient à l'époque affiliées à l'UNESCO, et étaient un groupe de travail et de réflexion sur où est la place de la tradition, de la tradition et de la langue de France dans l'encastre de notre action pédagogique.
Alors, on va beaucoup parler tout au long de cette émission avec Gérard Zucchet de notre implication, ou de son implication plutôt dans les troubadours. Alors justement, par rapport à ça, comme il y a beaucoup de définitions sur les troubadours, donnez-nous votre définition, qui n'est pas loin d'être certainement la véridique définition des troubadours. Alors, c'est quoi un troubadour ?
Qu'est-ce qu'un troubadour ? Alors, là, il y a plusieurs écoles, évidemment. Il y a ceux qui pensent que troubadour, ça vient plutôt de tropare, tropator, qui serait le compositeur de tropes, des petites tropes en langue latine. Au Moyen-Âge, il y avait ces petits chants des moines défroqués et des vaganti qui composaient des tropes. Mais en fait, troubadour vient vraiment du mot troubar. Troubar qui veut dire trouver. Même si certains disent oui, mais vraiment, on oublie que le tarab, en arabe, ça veut dire le feeling, ça veut dire le sentiment. Et les chanteurs du sentiment, on peut les signifier comme tarabadour. Bon, soyons occitans jusqu'au bout et admettons une bonne fois pour toutes que troubadour, ça vient de troubar, trouver. Mais au-delà de le cheminement étymologique pour arriver troubadour, encore faut-il savoir ce qu'est troubar. Perdre qu'est troubar, ce n'est pas trouver comme quand on se baisse, vous savez, pour trouver une pièce par terre ou un champignon ou ce que vous voudrez. Ça veut dire inventer. Et les troubadours ont une conscience artistique extrêmement importante par rapport à cette notion d'inventer. Ils disent, par exemple, « Fau cansu nubelo am mutz nubel que siag prim primies ». Ça veut dire « Je vais faire une chanson nouvelle avec des mots nouveaux et qui soit premier et innovant ». Et c'est peut-être ce côté de innovation et invention qu'il faut retenir chez les troubadours. Donc, le troubadour, c'est un trouveur, mais un trouveur qui est un inventeur et qui est un innovateur, puisque déjà le fait de choisir la langue profane qu'est l'occitan à l'époque, qu'on appelait pas encore occitan, mais qu'on appelait langue de Quercy, ou bien langue de Lémousie, ou bien langue de Provence, cette langue occitane se trouve écrite finalement dans des manuscrits, et qu'elle soit écrite par Bartolomeo Zorzi à Venise, qu'elle soit écrite par Cerveri de Gironne, à Gironne, en Catalogne, ou bien par Guillaume de Peyteus en Limousin, ou Peyre Vidal à Toulouse et Foulquet de Marseille à Marseille, cette langue est écrite dans la même graphie, c'est une coïnée, et elle devient, de fait, par l'écriture, la langue quasi officielle de la poésie. Toute la poésie au XIIe et XIIIe siècle, dans toute l'Europe, va s'écrire en occitan, jusqu'à Dante Alighieri, bien sûr.
Donc on pourrait dire que cette poésie, c'est la poésie du pays Europe, hein, ou du réseau Europe. C'est le début de la construction d'une entité.
Oh, exactement. Pouden dire que le troubadour, en participant, a eu une sorte d'union artistico-linguistique à travers la poésie. Perde que un te que s'écrit la poésie, que sia in Catalogna, Italia o Spagna, s'écrit en occitan. Et devient la première langue, la langue de la poésie. Le troubadour Raimond Vidal de Besalú, dans son traité qui s'appelle Les Razous de Troubar, définit ceci. Et il témoigne en disant qu'il n'y a pas de langue plus parfaite que celle d'oc pour écrire la poésie.
Alors, cette maladie de troubadour ou de la poésie, vous l'avez attrapée où ? Je crois que vous avez eu quelques difficultés respiratoires, on va dire, pour faire bref. Vous avez eu quelques difficultés. C'est peut-être dans ces insomnies de votre jeunesse que vous avez trouvé la force poétique qui est en vous.
On pourrait dire à quoi, oui, perdez que l'aïbiscute, que cadonnez, dormi sur l'épave, perdez que... tout simplement eri asmatico, tout jove, à l'âge de 13 ans, et de 13 à 13, pendant 10 ans. Et donc, cadonnais, m'intéressais d'aller à la fenêtre et de cantar à la population qui est domicile, elle, et à l'égide des livres, et surtout des poésies, et à moi, des romans, et des science-fiction, t'avais.
A l'esplan la flur s'emversa, pel trencant rang se pel tercere, cal flur neuja el secund la pis, que cot se destrene trenca, d'on vei morts qu'il cris brei xiscle, en feien rame i en giscle, mas mit en verd ja us en joi, arcall vei sec l'us dolent crois. Care naixi mu en versa, que bel pla mi semblo perdre, et tem per flur cum la pis, el cos mes vis que el frei trenca, el tromis un xane xiscle, e paron fui a li giscle, aixi sun ferm laizat en joi. Che renombe in che zia croi. Ma lo gen fa d'inversa, come se ero noi ritenterte, che fa pro piec che con la pis, chi scherza psa lenga trenca, e parla base a cisque, e noi va al basto sti cisque, e in menaso san lure gioi. Carre mai sanno z'inversa, non mutò l'un planiterte, donna ni genni con la pis, ma non può dentro pendrente, donna per cui c'ha ne cisque, vostre bello il mi sungisque, che un castillo si ancora gioi, che un snusa usave talancroi. Anatai cum causem verse, l'un ten ser, candal se ten, mare si cum un pi cum la pis, cu cia ai mase le trenca, cam nun cum chi c'han ni cisle, lui che pel ser cum che cisle, ma sar cheu lau malverga cioiz, malgat del fals causem ge crois. Usera nun cae si le verse, che nun temos ni terzi, la iunum en cun la pi li a prejude che i trenche a mi duccia nel cisque clar che il corre dentro il cisque se il pensa c'è un cianta a gioi che non taglia il cianta d'un croi.
Gérard, écrivez-moi. C'était du rap.
C'était du rap avant la lettre, puisque là nous écoutions une chanson de Rembo d'Orengo, Rembo d'Orange. Et Rembo d'Orange, d'abord dans le concept poétique, décrit un monde à l'envers.
Jugla, rendre, aimen, c'est joy, car nous veillons pas semblant croire.
Et je ne peux pas résister, après avoir entendu chanter Rembo d'Orengo en occitan, de le dire en français, dans une traduction similaire de Pays Rebec, qu'emparer la fleur inverse sur roc rugueuse et sur tertre, est-ce fleur non j'ai les givres qui tenaille torture et tronque, car le monde je l'inverse, que pleine me semble tertre et je tiens pour chaud, neige et givre, et pour froid, le soleil qui tronque. D'un baiser, je vous renverse, dame, rien ni peu, ni plat, ni tertre, ni menace. Vos beaux yeux sont pour moi ronces, qui attrapent tant mon cœur en joie que je n'ose avoir désir traître. Et on peut dire que Rembo d'Orange situe à la fois, pour ses amis, les intendants, l'acte d'écrire sur un registre de désordre phonologique, hein, puisqu'on entend beaucoup de R, al resplan la flour s'emberse, voilà, avec des sifflantes et des R bien prononcés, et en même temps, ce fameux concept de l'amour en respect de la dame. Vos beaux yeux sont pour moi ronces qui attrapent tant mon cœur en joie que je n'ose avoir désir traître. Ça veut dire qu'il est quand même respectueux de cette dame et il met une distance.
Alors, ça va nous amener sur un terrain où je voulais aller, bien entendu. Ce qui est normal quand on me connaît, c'est l'amour courtois. Dit courtois.
Oui, parce que souvent, l'amour est discourtois. Mais on appelle ça l'amour courtois, tout simplement parce que c'est ces chansons d'amour que déclamaient les troubadours, parce qu'ils les déclamaient ou ils les chantaient. Quand ce n'était pas les troubadours, c'était les jongleurs qui assumaient ce rôle. Tout à coup, c'est Fazio devant tout le monde et à la cour. Et Spracco qui disait amour courtes. Une amour qui s'est fait, et c'est l'amour qui se cantate à la cour. Donc, parlons de toutes. Par exemple, si prenez le Raymond de Miraval, Raymond de Miraval dit que entre 12 amants, donne, buscal prendre, aquel que vous va respecta, aquel que vous va aima. Laissez les teints, et prenez l'or. Donc, distavez qu'un amour, il doit être toujours fin, raffiné. Vous savez, on entend souvent le mot de fin amour. Fin amour, ça vient de ça. C'est le mot fin, qui veut dire à la fois raffiné et purifié, veut dire aussi fin au sens occitan, où on l'entend aujourd'hui. Ça veut dire que quand quelqu'un est fin, c'est tout le contraire de l'attitude plutôt goujate, quoi. Et je pense que le plus grand message que les troubadours ont fait passer en ce sens, c'est celui-ci. C'est-à-dire que l'amour doit être partagé entre les amoureux et il doit être partagé dans le respect. À l'idée d'amour, nous dit René Nelly, à l'idée de l'amour charnel, hein, bien sûr, René Nelly nous dit qu'il préfère l'amour, les troubadours préfèrent l'idée de l'amour, à savoir l'amour qui sera celui qui sera le plus près de la spiritualité. On ne parle pas de religion, hein, on est bien d'accord. On parle de l'amour intellectuel. Chez les troubadours, on oppose amour carnalis à amour spiritualis. Et sachant que amour carnalis, c'est aussi l'amour chez les troubadours. Raymond de Miraval le dit. Dame, si vous laissons votre manche et les cordons et allons nous allonger ensemble. Allons faire l'amour. Donc, c'est l'amour plus que l'amour. Hein, le livre de René Nelly, de l'amour subtil à l'amour fou, à propos de Raymond de Miraval, nous explique comment cet amour qui est écrit se veut un amour qui va être ensuite consommé. Et c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup les troubadours et qu'il faut remettre les chansons d'amour dans un contexte justement d'où on les a sorties.
Alors, est-ce que votre occitanitude qui est née, bon, quelque part sous les remparts de Carcassonne, on pourrait dire, a une filiation avec René Nelly? Parce que vous en parliez, René Nelly, c'est quelqu'un d'important dans le monde de l'occitanitude.
Naturalement, et Perriot, Renat Nelly, Fouguet, mon maître, dirais, mon maître a pensé, quand il commençait à cantar les troubadours, le premier cop que le faguet en public, Fouguet à la bibliothèque de Carcassonne, en 1993, per la première journée de Nelly. À l'escasenso de la Giornata Nazionale de la Poesia. E poi hai cantato din l'ustal di Renat Nelly a Buissos. E mi rappelli che abbiamo detto a mus amics all'epoca, in altre cop, un tabben cantato l'ustrubadu a Espesel, sur le plan de Saout. Si Cantan a qui et si notre camp intéresse la gente qui sont ici pour faire le tour du monde. Et ce so qu'on a fait le tour du monde, mais d'un coup, à cantar les troubadours.
Alors, ça paraît un peu étonnant de voir que cette langue était une langue qui avait une qualité universelle, quasi. Et aujourd'hui, bon, il y en a qui la bouderaient presque.
Et ce qui est très dommage, c'est qu'on se contente aujourd'hui de chanter la langue occitane, mais dans sa simplicité, pour ne pas dire dans sa nudité. Parce qu'à l'époque des troubadours, la langue occitane était très riche. Et l'Occitan a perdu beaucoup de cette richesse, l'Occitan actuel. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand nous écoutons des textes qui soient chantés par les uns ou par les autres, le problème n'est pas là. Mais tout ça reste un peu simple. La langue occitane au Moyen-Âge était vraiment la langue de la poésie. C'était vraiment... c'était pas la langue des chasseurs et des pêcheurs qui se disaient « Bonjour, Basse-Pla, as tu à la lèvre, qu'est-ce que mati ?»« Non, non, pas tu à la lèvre. » Era une langue avec une construction rimérable.
Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire, là on fait un peu de... on retourne un peu dans le présent, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'on est en train de perdre un peu le pied avec l'intellectualisme de l'époque?
On perd pied avec la poésie.
Vous voulez pas dire poésie, mais...
Mais moi je peux le dire.
Vous avez pensé très fort.
Mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que malheureusement, je ne revendique pas là une poésie romantique ou autre, c'est pas le problème, mais... La langue de la poésie, c'est une langue moderne, de la construction, de l'innovation, du feu. C'est le feu. Et nous avons perdu ça. Ça veut dire que nous sommes dans un moment civilisationnel où tout est policé. Et aujourd'hui, la langue avec, et notre Occitan d'aujourd'hui avec... je crois que quand on regarde les efforts qu'ont fait René Nelly, Max Rouquette, par rapport à la langue occitane, ils étaient vraiment sur une ligne digne des troubadours. Hein. C'est-à-dire, c'était de l'invention, une langue très recherchée.
Thank you.
une belle voix pour nous accompagner, c'est la voix de votre épouse.
Oui, Sandra Hurtado-Ros, mon épouse sévillane, qui chante les troubadours depuis longtemps maintenant. Et voilà, elle a chanté une chanson de Giraud de Bourneil, Res Glorious, qui est une de ses chansons les plus connues dans le corpus des troubadours.
Et donc, vous l'avez mis à l'accompagnement de ces sonorités musicales, j'allais dire, de cette émission, parce que vous l'avez ponctué de petites virgules, enfin, des grosses virgules, de chants de troubadour.
Oui, le troubadour Giraud de Bourneil, que nous venons d'entendre, en plus de cela, est celui qui était appelé « Lo mestre dels troubadours » par les gens de son époque, par les troubadours de son époque et les jongleurs de son époque. Dante Alighieri verra en lui le maître de la rectitude, parce que héroïne troubadour, que sabio fa de canzu, din tutis les stiles de composition, a qui un albo, a qui un sirventes, a qui un canzu d'amour, et tout à coup. Mas per lo Dante Alighieri, lo mestre, véritable dels troubadours fuguet Arnaud Daniel. Et Arnaud Daniel de Ribérac, il le dit dans la Divina Commedia, il le considère comme il miglior fabro del parlar materno. C'est-à-dire qu'il a un respect inouï envers lui. Pétrarque est du même avis et Pétrarque ira même à citer Arnaud Daniel dans les poèmes pour Laura, et il prendra même Laura en citant Laura Camas Luben, un extrait d'une chanson d'Arnaud Daniel. Il y a aussi Arnaud Daniel qui s'en va comme la lèbre et qui va nager contre la marée. Et c'est dire à quel point les Italiens, Pétrarque et Dante, sont extrêmement importants pour la connaissance des troubadours, parce qu'ils ont été à la fois collectionneurs des premières anthologies des troubadours, ils s'en sont inspirés, et en même temps, ils leur ont rendu hommage à chaque fois qu'ils le pouvaient. Donc, quand on a étudié la Divina Commedia, c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait tous ces troubadours. Mais qui étaient-ils? Que faisaient-ils? Et c'est pour ça que 800 ans après, nous en parlons encore aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction flagrante entre donc la sauvagerie de l'époque, puisque on nous a vendu le Moyen-Âge comme une période de sauvages, et la finesse, justement, de cette poétique?
Alors, est-ce que c'est une contradiction? Ou est-ce que c'est plutôt bénéfique, ou on peut se poser toutes les questions qu'on veut là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que les troubadours montrent dans leurs textes un regard très distancié de cette société médiévale dans laquelle ils vivent. On a l'impression qu'ils la regardent, ils y participent, ils la critiquent, ils la font évoluer aussi. Et contrairement aux images que nous avons reçues, le Moyen-Âge avec toute sa dose d'obscurantisme, de sauvagerie, de batailles rangées, etc., celui des XIIe et XIIIe siècles, en tout cas avant la croisade contre les Albigeois, dans toute l'Occitanie, mais aussi ailleurs, on s'aperçoit que la société nobiliaire est très respectueuse des gens qu'elle accueille, qu'ils soient des poètes, qu'ils soient des astronomes, des médecins, etc. Et le troubadour s'inscrit dans ce contexte où la femme occitane, contrairement à la femme du Nord, des sociétés du Nord, la femme occitane hérite des biens en bien propre et les administre en bien propre. Donc elle a une importance que n'a pas la femme du nord de la France, par exemple. Et dans ce contexte-là, les troubadours trouvent toute leur place. Et je pense que, à lire les textes, les seigneurs aussi, car il n'y a pas de seigneur qui ne soit pas ravi d'accueillir des troubadours à sa cour, parce que le troubadour va être également une sorte de porte-parole des largesses du seigneur. Et c'est, quand on parle de parache, c'est ça le parache. Ça veut dire que c'est le rayonnement du seigneur. Ce n'est pas simplement que héberger, nourrir et donner de l'argent et des dons à un troubadour, mais c'est aussi le respecter, l'amener avec lui quand il va dans d'autres cours, etc. Donc le troubadour participe à tout cela, tout en ayant son propre discours qui va, lui, aller dans le sens très piquant, je veux dire, il va être un peu l'aiguillon de cette société en évolution.
Est-ce qu'on pourrait dire, en replaçant le contexte sur la vie d'aujourd'hui, que le troubadour est un peu le chargé de com du seigneur?
Chargé de com, c'est un... bon, c'est trop lié à une connotation actuelle. Mais on peut dire qu'il participe, en tout cas, au rayonnement de la notoriété du Seigneur. Oui, ça, bien sûr. Nous avons des exemples. Je ne peux pas dire ça comme ça et pas donner d'exemple. Par exemple, le troubadour Raymond de Miraval était ami du comte de Toulouse. En tant qu'ami du comte de Toulouse, il écrivait des chansons au comte de Toulouse, et le comte de Toulouse lui répondait en vers sous le nom de Audiard. Donc il s'était déjà donné un signal entre eux. On a par exemple Père Raymond de Toulouse qui fréquentait les cours d'Aragon et qui dit dans une chanson, il faut que tu apprennes cette chanson et que tu la joues sur la vielle. Ça veut dire qu'il participait vraiment de façon intime à la vie du Seigneur. La même chose pour Père Vidal, quand Père Vidal séjourne chez Barral des Baux à Marseille, il rentre dans la chambre de la dame Barral, il l'embrasse alors qu'elle est en train de dormir, elle crie, elle ameute toute la cour dans sa chambre, et puis finalement, le lendemain matin, quand le seigneur demande où est Père Vidal, bon oui, il est parti, il devait rejoindre le roi Richard, cœur de lion, pour aller en croisade, enfin, peu importe le prétexte, était trouvé. Mais qui va demander au troubadour de revenir? C'est pas la dame, c'est les seigneurs qui vont, et les chevaliers, le seigneur et les chevaliers, qui veulent absolument que Père Vidal revienne à la cour, parce qu'on ne peut pas se passer de sa folie et de ses chansons. Et la dame, sous la pression de son mari et des chevaliers, pardonne ce baiser volé, et il fera une chanson pour qu'elle... il fera une chanson quand il va revenir à la cour.
Aere sanda u gracurie del bun spirit, Ian nu fallis ni mentis, ni eres ni tuptes, per paul de mort a prendre al mund del dieu estrany, car nus nu sem del mund, nil mund nil es de nus. Una nus a tu nois es ce que tu conoises, e ama ce que tu amas. Fariseu sen ganadu, estats a la porta del reine e veiats aquel qui... E vos altres, voi voleu, perquè es preci al Paire Sant del Bon Spirit, que ha poder de salvar as animas, e per vos perits fa granar e furi, e per razur de fruit una vida al mar. Ride veio amun segui a gaita bila noi sincero
me gibravo al fun del cor
che me gibravo al fun del cor ma il sangue buiesse in caro
L'amandro busca.
L'amandro buscavo pel sture. Lo venciulavo lo sgaris. Lo bestial remenava in sommi. Dins lus estable sento duse. Jus las nautos rimu tu gibu. Ausisio l'umbro se prefundre e legna in sacca ombro de peiro la castellano murmuna murmuna labros crudelo. Ses de sudami come un rio d'ardu e del luno al ser d'un dare paradis.
On est dans la poésie contemporaine avec une chanson qui est vous-même chantée par vous-même, j'allais dire. Parce que ben, c'est la gaïta, et c'est une belle aventure poétique encore.
Oui, moi je suis toujours resté fidèle à l'écriture occitane contemporaine, même si je m'intéresse beaucoup au troubadour, et j'ai mis en musique souvent René Naldi. J'ai fait plusieurs disques que j'ai consacrés à René Naldi, Max Rouquette, Max Allier, et puis à d'autres poètes également. Pas forcément occitan, de langue occitane, hein, comme Pierre Reverdy, Joël Bousquet, parce que je trouve qu'il y a une filiation directe dans l'invention, dans l'innovation de l'écriture, et ce sont vraiment de dignes héritiers des troubadours.
Comme un rio d'ardou et des lunes. Al ser d'une d'arie paradis.
Ça m'a toujours plu de mettre en musique, de ne pas faire finalement cette petite chose qui consisterait à dire voilà, d'un côté il y a les troubadours, de l'autre côté. Non, je crois que la poésie occitane, elle est totalement cohérente depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand j'écoute les jeunes groupes, hein, je pense à Docteur de Troubar, par exemple, ce sont des groupes qui fonctionnent avec la poésie, parce qu'ils travaillent sur la langue, mais ils ne travaillent pas que sur des choses simples. Et c'est peut-être là qu'est l'avenir de la création artistique en occitan, c'est de faire en sorte que la langue soit magnifiée et de l'explorer, on va dire ça, de l'explorer au maximum.
Alors, est-ce que par rapport à tout cela, nous ne sommes pas loin, ou peut-être pas d'ailleurs, de Gérard, qui était le petit homme italien qui faisait le jazz avec la famille? Est-ce que ça peut partir de là, à un moment donné, une filiation qui va jusqu'où vous êtes aujourd'hui?
Oui, je pense que quand j'avais 7 ou 8 ans et que mon oncle m'amenait dans son jazz, dans les fêtes de village, et où je pianotais d'un côté, tapais sur des percussions de l'autre, et finalement participais à cette belle baloche... Oui, je crois qu'on reste, vous savez, on est le fruit que de ce que nous avons vécu. Hein, donc ça participe du même entrain, on va dire. Et moi, je me rappelle quand j'ai eu cette opportunité de faire avec Alphonse Stalard, que j'ai rencontré, qui est un élève de Messiaen et qui a fait cette œuvre, qui a composé cette œuvre sur les textes de Max Rouquette, L'Houma au corps de l'unicorne. Quand je me suis lancé dans cette aventure, je dirais quand même j'ai initié cette aventure, ce qui me plaisait beaucoup, c'est d'essayer de faire se rencontrer deux cultures, l'une d'un compositeur hollandais, l'autre d'un grand écrivain occitan. Et j'ai fait ça avec bonheur parce que ce qui m'intéressait, c'était de confronter la langue à d'autres sonorités et à un autre langage musical. Et en fait, c'est ce que je fais depuis toujours. C'est la langue comme instrument d'une vocalisation, la langue comme instrument de poésie et al rencontre de toutes les musiques. Les fight t'avais am Lufausi à l'Aïedi, une CD où elle cante en arabe et eu en occitan, les métailles sont cançons des troubadours, par exemple.
Est-ce que vous pensez que la langue des troubadours donc, est une langue qui a le mérite donc de tourner autour de l'Europe et de la Méditerranée? C'était une langue de référente à l'époque, ou toujours aujourd'hui peut-être,
méconnue. Et je pense que si les troubadours avaient vécu après Christophe Colomb, elle aurait été beaucoup plus loin, sachant que il faut savoir qu'au Brésil, par exemple, le Brésil est un pays où il y a une tradition importante à travers les repentistas, comme en Argentine aussi, de cette culture troubadouresque, hein, qui est celle également de la création versifiée de l'instant, sur l'instant. Les repentistas font cela. Il y a un très beau film que j'aime qui s'appelle Cobra Verde. C'est un film de et avec Klaus Kinski. Et l'introduction de ce film, les premières images, c'est un troubadour brésilien du nord-est qui est en train de raconter avec un gros violon qui ressemble à une vieille archer l'histoire du brigand Cobra Verde. Et je n'oublie pas cette image-là, elle me vient tout de suite parce que ça me rappelle que les chansons de troubadour, à leur époque, avaient une fonction sociale. En plus de faire passer des messages qui contiennent toutes les valeurs laïques et humanistes qui me sont si chères, en plus de cela, elle faisait état de moments sociétaux importants. Par exemple, à l'époque de la croisade contre les Albigeois, Peyre Cardinal dit « Maintenant, moi, je ne fais plus de chansons d'amour. Laissons les chansons d'amour. Il faut écrire contre ceux qui veulent détruire cette société. » Et là, c'est très clair que les chansons de Peyre Cardinal, Guillaume de Montagnagol, Guillaume Figuera et autres, Bernard de Rouvenac, deviennent des chansons politiques qui sont vraiment anti-croisées.
Donc on peut dire, mais c'est vrai que j'ai presque fait un temps mort là, parce que j'étais surpris par ce que vous me disiez. Est-ce qu'on peut dire que, à partir de cela, le troubadour devient opératif dans la société?
Ah, c'est un acteur. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui contemple, qui regarde et qui se met en dehors. À un moment, il devient totalement partie prenante des événements, au point que beaucoup de troubadours s'exileront en Italie, en Espagne, et on en trouvera beaucoup justement du côté de en Sicile, à la cour de Frédéric de Hohenstaufen, où ils seront pas très bien reçus, mais il aura au moins la bonne présence de les recevoir, de les héberger, de les nourrir.
Beleu per un matí mai verd, beleu per respir del desert, passarem veure l'auro ferro de l'altra mà de la gran sera. Passarem veure l'auro ferro de l'altra mà de la gran sera.
Belo per una sei mai blau, belo per i trappa tresor, passare in fugilo miserio dell'altro modo della gran sera. Passare in fugilo miserio dell'altro modo della gran sera. Peut-être pour ce matin vert, ou pour le souffle du désert, nous irons boire le vent sauvage de l'autre côté des nuages. Nous irons boire le vent sauvage de l'autre côté des nuages. Belle au père une dieu mai gada, au père amour sous faux brandal, guitare de somia sopero, de l'autre main de la grand sera.
Donc, je vous laisse faire l'annonce de cette chanson qui est encore une chanson que vous avez adaptée, réalisée, créée.
Oui, alors c'est un texte de Franck Bardou, lui-même très influencé par René Nelly. Et la particularité de cette chanson, c'est que c'est vraiment un hommage à Jim Morrison. Bien sûr, pas dans sa réalisation, mais sur le thème d'inspiration de Franck Bardou. Et puis que j'ai mis en musique. C'est un texte que j'ai mis en musique, tout simplement. Mais c'est intéressant de voir qu'on peut, avec la langue occitane, aller assez loin, finalement, avec la composition musicale. Souvent, je dis, quand je fais des conférences avec mes étudiants, je dis « troubar no limite ». Il n'y a pas de limite, parce que les troubadours ne se sont mis aucune limite. Et j'aime bien quand les poètes occitans aujourd'hui ne mettent pas de limite dans leur écriture. Et voilà, c'est pour ça que je m'intéresse aussi à l'édition et que je m'intéresse aux poèmes de Jérôme Privat, Franck Bardou, Roland Pécou, Sylvain Chabau.
Par rapport à cela, évidemment, il y a un pavé, pas un pavé dans la mare, mais un pavé que vous avez donc publié, qui s'appelle La Trouba. Et qui est en fait une sorte de dictionnaire de l'invention lyrique occitane dans le cadre des troubadours, bien entendu, au 12e et 13e. C'est-à-dire que là, dans ce bouquin, excusez-moi, le mot bouquin est un peu réducteur, dans ce pavé, dans ce dictionnaire, c'est mieux, c'est plus noble, il y a tout.
Vous savez, Jean, c'est tout simplement une anthologie. C'est une anthologie de textes. Et comme ça fait longtemps que je travaille sur le domaine du troubar, eh bien, j'ai compilé pas mal de textes, puis avec de nouvelles traductions et puis avec des commentaires. Et il faut savoir qu'avec mon ensemble, Troubadour Art Ensemble, nous avons enregistré les 248 chansons de Troubadour sur les 260 ayant la musique. Et ça a donné lieu à La Trobe. La Trobe, dont c'est une collection de 22 CD. Et là, le livre vient en plus apporter un éclairage sur ces troubadours-là, bien sûr, et encore d'autres importants qui n'ont pas de musique. Parce que il faut savoir que dans le domaine de la poésie des troubadours, beaucoup de troubadours ont la musique, mais ils sont encore plus nombreux, ceux qui ont des textes sans musique. Et il était nécessaire de donner quand même un éclairage sur ce corpus en entier. Et nous allons bientôt travailler, nous allons bientôt présenter La Trobo Numérico, qui sera accessible sur Internet, où nous aurons un corpus de textes très important, avec également la musique, les transcriptions musicales, les manuscrits adéquats, etc.
Est-ce qu'on peut dire, Gérard, que vous êtes un des... Je ne sais pas comment l'exprimer. Vous êtes un des réalisateurs de la prise en compte des troubadours dans le monde d'aujourd'hui.
Oui, alors d'abord, moi je vais vous dire que nous ne sommes pas très nombreux dans le monde à nous intéresser aux troubadours. Donc forcément, je suis l'un des acteurs. Et je suis, peut-être contrairement à d'autres qui travaillent que sur la linguistique, que sur la musicologie ou que sur la philologie, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que je développe dans le cadre de l'université de Stanford avec les étudiants américains. Je m'intéresse à la performance, ça veut dire au côté artistique. Les troubadours sont avant tout des auteurs, des compositeurs, des artistes qui s'inscrivent dans une société, non pas pour s'y fondre, mais pour la critiquer et pour la faire avancer. Une fois, ils sont moralistes, d'autres fois, ils sont extrêmement satiriques. Et je contribue à cela. Si je peux contribuer à la connaissance des troubadours, justement, loin du folklorisme ou du néo-folklorisme ambiant, je suis très heureux.
Mais bon, certains y contribuent avec passion, d'autres avec des dérivés folkloristes, comme vous le disiez, mais quand même, vous faites partie du noyau dur de la défense des troubadours. Je voudrais que vous me le disiez, oui, oui.
Non, je ne peux pas dire que c'est un noyau dur, parce que les troubadours n'ont jamais été, ne se sont jamais positionnés comme ça, et moi non plus. Mais par contre, oui, je peux revendiquer le fait que je fais partie des quelques personnes qui s'intéressent aux troubards, vraiment aux troubards artistiques, quoi. Hein, c'est-à-dire à ce côté-là des choses.
Je vais aller être... grossier, quasiment. Est-ce que vous considérez comme le gilet jaune des troubadours?
Non, les gilets jaunes ont beaucoup d'autres préoccupations. Ce serait bien s'ils avaient cette préoccupation-là, mais pour l'instant...
On pourrait leur conseiller, peut-être. Voilà. On pourrait leur conseiller.
Lest iu serà mai bei Que hi haurà emprestat l'un mirall Das paures ois un s'est negat E la culo que hi apundrem De tot la bonu vengut d'el E perquè l'haurem dit Lest iu serà mai bei E perquè l'haurem L'estiu serà mai bell E l'urredat vengut d'un somni Que la gitara m'assumia E d'illusió i de tant que sabe E de tant que s'aupra i jamai Aura l'he mandat un bel somni Caurio fa espantaisat l'estiu E perquè la
A Trouba, Lutrouba, Trouban des Mouts, Sensideios et Dideios et Mouts, Embersan las Flou et Flourissen los Berses, Fin finalo a Trouba des Mouts Traucat et Traucat des Mouts Troubat.
A troublé le Troubar, trouvant des mots sans idées et des idées sans mots, inversant les fleurs et fleurissant les vers, à la fin il a trouvé des mots troués et troué des mots troublés. Voilà, c'est une belle poésie de vous.
Oui.
Ben, n'ayez pas...
Non, je ne suis pas d'accord. Je dirais que c'est une estrade d'aquelle libre et qu'il fait à mon ami Jean-Luc Sévérac, de Minerbe, qui est sculpteur, dessinateur, et donc a ben fait à quel libre ensemble, composat des mots sur des dentailles, sur des gravures.
Alors, est-ce qu'on peut dire que cette façon de se rencontrer avec Jean-Luc, que vous connaissiez par ailleurs, ça nous ramène aux racines? Parce que Minerbe, ça fait partie des racines.
Et Minerbe, ça a été pour moi longtemps des racines, parce que d'abord, j'y ai habité un petit peu, et puis j'y avais beaucoup d'amis. Donc, le fait de se revoir avec Jean-Luc... que j'ai connu en 70, 71, 72, 73, etc. Ça a été une rencontre, vous savez, comme quand deux amis qui ne se sont pas vus depuis 40 ans se retrouvent et se disent « Tiens, et si on faisait quelque chose ensemble ?» Les Acocs avaient une fight.
Alors, est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Savorac, c'est un homme de l'Occitanie vraie ?
Or, l'Oupodendir et Perdeke, elle a causé un ascute à Béziès et Senezanat, une pau, fa des studies d'une pau de Pertout, et payez tournat à Minerbo et à qui est-ce de Mourat. Et toute son art, la faite, a mis ce qu'il y a bio sur le caos de Minerbo. Dans l'Ulietch del Rio de la Cesso, par exemple, Perdeke fu sculpture de Peiros et de Minerbo et d'Alentour.
Alors, il faudrait une dizaine d'émissions, encore que, avec notre ami Gérard Duquetteau. Mais nous allons nous quitter avec un poème de...
Pierre Reverdy, dont c'est un poème « Chemin tournant » que j'ai mis en musique, car il est toujours d'actualité. Et puis, ça fait un petit peu le point et le trait avec les troubadours dont je parlais, puisqu'il a fait comme Bernard de Ventadour, Pierre Reverdy. À un moment, il a dit stop à tout, et il est parti, il est allé s'enfermer à l'ordre de Dallon, comme avait fait Bernard de Ventadour 800 ans avant lui.
Alors, c'est une émission qui est jonglé, vous l'aurez vu, avec les portes de l'esprit. Voilà, on n'en dira pas plus.
Il y a un terrible gris de poussière dans le temps, un vent du sud avec de fortes ailes dans le temps, les échos sourds de l'eau dans le soir chavirant et dans la nuit mouillée qui jaillit du tournant. Des voix rugueuses qui se plaignent, des voix rugueuses qui se plaignent. Un goût de cendre sur la langue, un bruit d'orgue dans les sentiers. Le navire du cœur qui tangue, tous les désastres du métier. Tous les désastres du métier. Quand les feux du désert s'éteignent un à un, quand les yeux sont mouillés comme des brins d'herbe, quand la rosée descend les pieds nus sur les feuilles, le matin à peine levé, le matin à peine levé, il y a quelqu'un qui cherche une adresse perdue dans le chemin caché. Les astres dérouillés et les fleurs dégringolent à travers les branches cassées, à travers les branches cassées. Et le ruisseau obscur essuie ses lèvres molles, à peine décollées, à peine décollées. Quand le pas du marcheur sur le cadran qui compte règle le mouvement et pousse l'horizon. Tous les cris sont passés, tous les temps se rencontrent. Et moi je marche au ciel, les yeux dans les rayons. Et moi je marche au ciel, les yeux dans les rayons.
Utsita, Utsita, Utsita. Attitude, attitude, Utsitanitude.
Une émission préparée par Radio Languedoc. Présentée par Jean Tufou. Réalisée par William Baudry.